Nous en sommes maintenant au troisième jour de la retraite. En 2014, M. Lo a écrit et publié un bref commentaire du Genjo Koan de Maître Dogen. À la dernière page de son petit livre, il note que Dogen enseignait que pratiquer la voie avec un cœur sincère, c'est déjà être éveillé. M. Lo écrit ensuite ces quelques phrases. Il n'y a aucun écart entre la pratique et l'éveil, pas plus qu'entre zazen et la vie quotidienne. Nous ne pratiquons pas pour atteindre l'éveil. Nous pratiquons pour nous libérer de l'illusion que nous ne sommes pas éveillés et que nous avons besoin d'une expérience particulière pour y parvenir. Mais tant que nous ne pratiquons pas, nous ne savons rien de cette illusion qui nous emprisonne. Permettez-moi de relire ce passage. Il n'y a aucun écart entre la pratique et l'éveil, pas plus qu'entre zazen et la vie quotidienne. Nous ne pratiquons pas pour atteindre l'éveil. Nous pratiquons pour nous libérer de l'illusion que nous ne sommes pas éveillés et que nous avons besoin d'une expérience particulière pour y parvenir. Mais tant que nous ne pratiquons pas, nous ne savons rien de cette illusion qui nous emprisonne. J'aimerais aujourd'hui commenter ce texte de M. Lo. Il commence en disant « Il n'y a aucun écart entre la pratique et l'éveil, pas plus qu'entre zazen et la vie quotidienne. » Comme cela est étonnant. Comment est-ce possible? Notre pratique nous paraît si souvent imparfaite, pleine de trous. Nous ne savons pas où aller, comment avancer. Parfois, nous n'y comprenons plus rien. Et que dire de notre vie quotidienne, qui nous paraît si souvent égarée, éparpillée, dispersée aux quatre vents, sans direction? Comment est-il possible que notre pratique et notre vie quotidienne, dans lesquelles nous nous sentons si souvent perdus et qui nous semblent si souvent ingrates et humiliantes, comment est-il possible de dire qu'il n'y a aucun écart entre l'éveil et notre pratique, entre zazen et notre vie quotidienne? Le maître Guo Gu, qui dirige le centre Chan de Tallahassee en Floride, écrit que pour comprendre ce texte, il est bon de distinguer deux points de vue, le point de vue de l'éveil et celui de la pratique. Lorsque M. Lo nous dit que la pratique et l'éveil sont un, il s'exprime à partir du point de vue de l'éveil. De ce point de vue, tous les êtres sont déjà libres. Ils n'ont pas à le devenir. Ils sont déjà pleinement libérés et rien ne les enchaîne. Maître Aquin le dit autrement dans son chant du Zazen. Depuis toujours, tous les êtres sont Bouddhas. Du point de vue de l'éveil, il n'y a aucun écart entre la pratique et l'éveil ou entre zazen et la vie quotidienne. Chaque geste est un miracle complet. Il n'y manque absolument rien. Il n'y a d'instant en instant rien à attendre, aucun éveil à atteindre. Et comme le dit encore Maître Aquin, qu'y a-t-il hors de nous et de quoi manquons-nous? Le nirvana est là sous nos yeux. La terre qui nous porte est la terre de pureté et ce corps même, le corps du Bouddha. Un jour, un moine demanda à son maître, « Comment discerner la vérité avant le déploiement de l'éveil? » Le maître lui répondit, « Il se déploie maintenant. » L'éveil se déploie en chacune de nos respirations. Il se déploie dans la moindre pensée qui apparaît dans notre esprit, dans chaque émotion que nous ressentons, dans chaque sensation. Il se déploie dans la question que le moine pose à son maître et aussi dans la réponse que donne le maître. Que nous soyons assis en zazen sur notre natte ou occupés à faire quoi que ce soit d'autre, chaque instant est un instant de vérité et d'éveil. D'un instant à l'autre, quelle que soit l'expérience dans laquelle nous sommes engagés, l'éveil reste intact et se manifeste. Dans un autre de ses textes, M. Lou écrit « Aussi longtemps que vous penserez qu'il y a d'un côté l'éveil, puis une expérience, une intuition ou un soi auquel vous vous éveillez, vous serez perdu dans l'illusion. Toute expérience est transitoire, passagère, impermanente. Mais vous ne l'êtes pas. Vous ne venez pas et vous n'allez pas. L'esprit éveillé est votre état naturel. Tous vos efforts pour vous éveiller ne font qu'obscurcir votre esprit. Soyez, c'est tout. Il n'y a aucune technique, aucune pratique pour y arriver. Ce qui est requis ici et maintenant, c'est sauter sans peur dans la vérité, tout simplement être. Il n'y a rien à changer ou transformer, rien à atteindre ou ajouter, et rien ne nous manque. Comme le dit le maître Guogu, c'est à partir de ce point de vue que M. Lou s'exprime lorsqu'il nous dit que pour maître Dogen, il n'y a aucun écart entre la pratique et l'éveil, ou entre zazen et la vie quotidienne. Le second point de vue, celui de la pratique, est radicalement différent. C'est un point de vue qui nous est beaucoup plus familier. Lorsque nous arrivons au zen, c'est en effet avec l'espoir d'y trouver quelque chose qui nous manque. Certains diront qu'ils manquent d'amour et de paix dans leur vie, d'autres qu'ils cherchent la joie et la sérénité, certains cherchent plutôt la vérité, ils veulent savoir si leur vie a un sens ou comment mieux vivre, d'autres encore veulent éloigner les contradictions et les conflits en eux-mêmes et avec les autres, d'autres disent chercher l'éveil ou aspirer à la vie sainte. Ils se disent prêts à tout donner pour l'atteindre. D'autres encore veulent échapper à l'insécurité ou aux doutes personnels qui les accablent. Lorsque nous arrivons au zen, nous cherchons quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Lorsque l'on s'y arrête pour y réfléchir ou en parler, on se rend compte que l'on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Cela reste vague. Nous n'arrivons pas à le formuler. Les mots nous manquent. Nous n'arrivons pas à dire ce que c'est. C'est comme s'il y avait quelque part en nous une question inarticulée, une question qui manque de mots pour questionner, mais qui exige une réponse. Une question qui nous appelle comme du fond de nous-mêmes et qui se manifeste dans notre vie comme un élan vert, un inconfort ou un malaise sans contenu. C'est cette question inarticulée et l'insatisfaction diffuse qu'elle alimente de façon presque souterraine dans notre vie qui nous pousse vers le zen. Nous voulons quelque chose. Mais nous ne savons pas clairement ce que nous cherchons. Nous sommes égarés et nous aspirons à être guidés. Car disons-nous, nous pressentons bien qu'il nous manque quelque chose et qu'il est impossible après tout, n'est-ce pas, que la vie se résume seulement à cette demi-vie que nous avons l'impression de vivre en permanence. Je marche à côté d'une joie qui n'est pas à moi, disait autrefois le poète Saint-Denis Garneau. C'est là le second point de vue dont parle le maître Guogo, le point de vue de la pratique. Et c'est aussi pourquoi la pratique est si importante. Comme le dit M. Lowe dans son texte, tant que nous ne pratiquons pas, nous ne savons rien de cette illusion qui nous emprisonne. Cette illusion, c'est de croire que quelque chose doit être changé. Récemment, en one-on-one, une personne m'a dit qu'elle pratiquait plusieurs heures par jour, dans le but, disait-elle, d'accélérer le processus. Malgré sa sincérité évidente, elle se disait pressée de s'éveiller, et dans ce but, elle multipliait les heures de zazen. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti cette urgence? L'on se fixe des buts à atteindre, l'on s'impose de suivre un horaire rigide de zazen, l'on s'astreint à une certaine discipline de vie, et quoi d'autre? Et l'on évalue sa propre pratique et celle des autres à la lumière de ces critères. Est-ce que je me rapproche ou non des buts que je dois atteindre? Est-ce que je respecte ou non mon horaire de pratique? Est-ce que je me montre suffisamment attentif dans ma vie quotidienne? Nous voulons, comme le disait cette personne, contrôler notre pratique et accélérer les choses. Nous sommes pressés de nous éveiller et nous scrutons soigneusement notre vie quotidienne dans l'espoir d'y déceler les moindres signes d'un début d'éveil. Nous attendons quelque chose. Une expérience particulière que nous imaginons lumineuse, une expérience décisive qui nous libérera une fois pour toutes de tous nos problèmes et nous fera enfin connaître une plus grande joie de vivre. Et nous croyons bien sûr que tout cela dépend de nous, de nos efforts, de notre propre volonté. Et c'est très bien ainsi. C'est le point de vue de la pratique. Et si l'on persévère dans cette pratique intentionnelle, l'on visite peu à peu toutes les impasses qui en découlent. Et il nous faut les traverser avec patience et humilité. Entrer en contact avec toutes nos vexations et nos humiliations, avec nos rages d'impuissance et notre intransigeance envers les autres et nous-mêmes, côtoyer de près nos prétentions d'être supérieurs, la honte de ne pas être parfait, et notre indignation d'être injustement traité sans l'avoir mérité. C'est ce que j'appelle entrer en amitié avec ce qui est, ne rien refuser et accueillir avec bienveillance tout ce qui se manifeste en soi. Et à ce stade, si l'on échoue à atteindre nos objectifs, ou à tout le moins à s'en approcher, l'on n'hésitera pas à se critiquer durement soi-même, ou à juger sévèrement les autres membres de la communauté, les enseignants ou l'enseignement lui-même. L'on manque alors de compassion et de tolérance envers soi-même. Et notre gratitude envers les autres est encore trop jeune pour endiguer notre sévérité envers eux. Si rien ne change, la plupart des gens finissent alors par quitter. Et c'est bien ainsi. Il n'y a pas lieu d'insister. Certains reviennent parfois, d'autres jamais. Qui peut vraiment connaître les chemins que nous devons parcourir avant de trouver une voie spirituelle qui parle à notre cœur? Permettez-moi de citer un peu plus longuement, Monsieur Lowe. Il nous dit, pour s'engager sérieusement dans une voie spirituelle, il est de toute importance de renoncer au monde. Et cela peut se faire même s'il n'y a aucun changement apparent dans les occupations et les activités courantes. Le geste du renoncement a lieu quand on voit sans équivoque que le monde et tout ce qu'il représente ne peut en aucune façon apaiser notre mal de vivre. L'on voit alors clairement les prétentions du monde. Et pour un moment, on se tient dans la nudité et la solitude. Et même si on essayait de toutes nos forces, on ne peut plus revenir en arrière. À ce moment-là, quelque chose est détruit qui ne pourra jamais être remplacé. On se doit maintenant d'avancer sans relâche. Il y a donc ces deux points de vue, celui de l'éveil et celui de la pratique. Du point de vue de l'éveil, tous les êtres sont libres. Du point de vue de la pratique, chacun est enfermé dans son propre monde. Du point de vue de l'éveil, il n'y a rien à faire. Du point de vue de la pratique, l'on doit absolument faire quelque chose. Lorsque l'on s'assoit en zazen, l'on permet enfin à ces deux points de vue de s'interpénétrer. La glace qui recouvre notre vie peut enfin commencer à fondre. M. Lowe poursuit en disant, nous ne pratiquons pas pour atteindre l'éveil. Nous pratiquons pour nous libérer de l'illusion que nous ne sommes pas éveillés et que nous avons besoin d'une expérience particulière pour y parvenir. Vous êtes déjà libre. Vous n'avez rien à faire pour vous libérer. C'est le point de vue de l'éveil, et il est juste. Recevez-le avec joie et chérissez-le. Ce point de vue nous indique non pas dans quelle direction nous devons aller, mais simplement d'où nous venons. Il pointe non pas vers l'éveil, mais à partir de l'éveil. Lorsque nous arrivons à la pratique, voilà d'où nous venons. Nous venons au zen à partir de l'éveil. L'éveil cherche son chemin en nous. Je vous encourage à vous le rappeler régulièrement. Vous ne pratiquez pas pour atteindre l'éveil, vous pratiquez à partir de l'éveil. Nous pratiquons pour nous libérer de l'illusion que nous ne sommes pas éveillés et que nous avons besoin d'une expérience particulière pour y parvenir. Ici, notre maître nous rappelle l'importance de la pratique. Lorsque l'on s'assoit en zazen, les points de vue de l'éveil et de la pratique s'interpénètrent. Pour la première fois, les événements de la vie quotidienne, les situations habituelles qui rythment nos journées, nos propres réactions, nos vexations, nos humiliations, tout ce dont nous sommes fiers ou honteux, toutes nos culpabilités et nos ressentiments, tout cela peut être vu à partir de l'éveil, et non plus seulement à partir du point de vue de la personnalité. Encore ici, écoutons M. Lowe. Nous pratiquons le zen, mais tout compte fait, nous ne pratiquons pas le zen. C'est simplement la totalité qui se fait connaître elle-même. Depuis le début, tous les êtres sont Bouddha. Mais la personnalité veut tout s'approprier. C'est elle qui est pressée de s'éveiller. C'est elle qui dicte les conditions à remplir pour que l'éveil devienne possible. C'est elle qui décide du succès ou de l'échec de tout ce que vous faites. et qui distribue les blâmes et punitions. C'est elle qui cache soigneusement aux yeux des autres sa conviction d'être unique, différente et supérieure. Et lorsque tout cela est vu à partir de l'éveil, c'est-à-dire lorsque rien de tout cela n'est refusé, lorsque toute la personnalité peut enfin s'exprimer en nous, lorsque l'on ne se cache rien à soi-même et qu'on se laisse traverser par tout ce qui monte en nous et que l'on laisse tout cela s'en aller sans rien en retenir, alors l'éveil et la pratique se nourrissent mutuellement. L'on renonce au monde, comme le disait M. Lowe. L'on renonce à se défendre ou se protéger contre l'humiliation ou la douleur intérieure que l'on ressent. Et peu à peu, cette humiliation érode notre attachement à toutes les expériences qui nous traversent, aussi sublimes soient-elles. Sans rien refuser, on laisse les vents de la vie nous transpercer, on s'enlève du chemin. L'on voit enfin que toutes nos expériences sont instables et impermanentes, qu'elles n'appartiennent à personne et que personne n'est là pour les recueillir. L'on renonce à retenir le monde, à retenir un monde surtout, celui de la personnalité qui pratique, ce monde où l'on veut que le zen fasse quelque chose pour nous et nous rende peut-être plus heureux et compatissants. Ce monde factice, où l'on voudrait qu'une profonde sagesse nous change et nous fasse planer au-dessus des choses. L'on renonce à être zen. On cesse de jouer. Un maître a écrit que la plupart de ceux et celles qui pratiquent le zen le font pour vivre des expériences d'éveil. Ils veulent que les autres sachent qu'ils sont éveillés, et c'est pourquoi souvent ils adoptent des attitudes étranges et se comportent bizarrement. Ils veulent se distinguer des autres et qu'on les admire. Ils ne voient pas qu'en agissant de cette façon, ils ne font que renforcer leur attachement à leur propre personnalité. C'est une triste erreur. M. Lowe nous encourageait souvent à ne pas pratiquer le zen. Il ne sert à rien de faire comme si l'on pratiquait le zen. Oubliez tout cela. Ne vous encombrez pas d'un tel fardeau. Vous n'en avez aucun besoin. Lorsque vous vous asseyez en zazen, revenez simplement à ce qui est. Vos sensations physiques, votre respiration, ce que vous ressentez, les pensées qui traversent votre esprit. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Il est inutile de chercher autre chose. Il n'y a rien d'autre et rien ne vous manque. La moindre chose devient alors une opportunité de pratique. Et peu à peu, vous le verrez, vous renoncerez à chercher ailleurs que dans votre propre vie. Et ce renoncement apparaîtra de lui-même, d'une façon tout à fait naturelle, comme un fruit qui mûrit. Comme l'écrit Albert, nous n'avons besoin d'aucune expérience particulière pour y parvenir. Du point de vue de l'éveil, rien ne manque. Tous les êtres sont déjà libres et sans entrave. Du point de vue de la pratique, chacun est enchaîné à son propre monde et l'on dirait toujours qu'il y manque quelque chose. Lorsque l'on s'assoit en zazen, l'éveil et la pratique s'interpénètrent. S'éveiller, voir sa propre nature, ce n'est pas réellement voir quelque chose. On n'atteint rien. Simplement, nos illusions disparaissent. nous pratiquons pour nous libérer de l'illusion que nous ne sommes pas éveillés.